Le Seigneur soit avec vous.
Amen.
Lecture de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu.
Amen.
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Jésus lui dit alors, « Arrière, Satan, car il écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable quitte, et voici que des anges s'approchèrent et le servaient. Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable. Cette première phrase de récit que nous venons d'entendre nous fournit tous les éléments qui nous permettent de découvrir comment Jésus manifeste son identité et sa mission, d'une part, et d'autre part, nous fournit la manière de vivre notre carême sous forme de quarantaine. Je vous signale que la première lecture et l'évangile, d'après leur écriture, ne doivent pas être lues d'une manière littérale, mais teintées de symbolisme. Prenons chacun des mots cette première phrase. Le désert. Nous avons chanté tout à l'heure, nous irons tous au désert. Oui, prenons bien conscience de ce que c'est que le désert. Le désert, c'est un lieu apparemment vide, je dis bien apparemment, mais qui est souvent un lieu d'épreuve, où l'on connaît, où tout homme connaît le silence, la solitude, parfois la peur. C'est un lieu d'épreuve car il n'y a plus beaucoup de repères pour se guider. Lieu d'épreuve, on se trouve face à face à soi-même et face à face avec Dieu. Dans la Bible, en général, surtout chez les prophètes, le désert est présenté comme un lieu de fiançailles, d'accord d'ail, où on examine un peu où nous en sommes dans nos relations avec Dieu. C'est l'occasion de se ajuster, de se réajuster avec Dieu, dans un esprit de communion. Lieu d'épreuve, lieu de rencontre, mais d'une rencontre spirituelle, pour rétablir un contact plus fort, une amitié plus vivante, avec non plus un créateur, mais avec un père. Oui, lieu d'épreuve, mais surmontable, car l'Esprit est présent dans ce désert. Il y a un terme qui est assez voisin du mot désert, une certaine parenté, c'est le mot jeûne. Jeûner, c'est faire le vide en soi, mais dans un but positif, non pas dans un sens simplement de renoncement, de privation, mais pour se rendre s'alléger, pour se rendre disponible à Dieu d'une part et à nos frères les hommes d'autre part. C'est aussi un temps d'attente, le jeûne, d'une rencontre qui est annoncée pour être accueillant à celui qui va venir. Après le désert, voyons Jésus. Jésus vient d'être baptisé. Mais le baptême ne s'est pas passé conformément à la loi. Devant le refus, l'objection que Jean-Baptiste lui présente, c'est pas « tu ne dois pas être baptisé, c'est moi qui devrais être baptisé par toi ». Jésus lui demande de passer outre à cette objection, car il veut manifester sa solidarité comme homme avec les hommes de son temps, avec l'humanité tout entière. Une fois le geste accompli par Jean-Baptiste, intervient la voix de Dieu, une parole. Dieu qui proclame qu'il reconnaît en Jésus cet homme, son fils bien-aimé. Ainsi est proclamé aux yeux de tous le mystère de l'incarnation. Jésus, vrai homme, et Jésus, vrai Dieu. Et voilà la réalité que le Christ va aborder au désert. Il va en prendre conscience et se positionner par rapport à cette parole unique qui est l'objet de sa méditation au désert, en compagnie de l'Esprit. Oui, Jésus est vraiment un homme, mais il est conscient d'être fils de Dieu en même temps. Cela va être l'objet de la tentation. Car nous arrivons à l'autre personnage, le diable, le diviseur, le rusé. Diviseur, son but dans toutes les existences humaines, c'est de séparer l'homme de Dieu, d'éloigner l'homme de sa vocation chrétienne, se contenter d'une vocation humaine. C'est le rusé. Nous avons un exemple dans la première lecture. Il passe son temps pour persuader, pour séduire, en interprétant à sa manière la parole de Dieu. À Ève, il lui rappelle la consigne que avait donnée Dieu à Adam et Ève. Vous ne mangerez pas de ce fruit, vous serez morts. Lui dit, mais non, pas du tout, c'est le contraire. Il fausse vraiment la vérité. Si vous mangez, vous serez des dieux. Il va user de la même ruse avec Jésus, en partant des envies, des désirs, j'allais presque dire des instincts humains, ce besoin de vivre bien, ce besoin d'admirer les héros, les spectacles, les besoins de dominer, d'être fort par rapport aux autres. Arrêtons-nous maintenant à ce contenu de la tentation. C'est vraiment l'épreuve, l'examen de passage que le démon va faire subir à Jésus sur son identité et sa mission. C'est un défi à partir de ces vues humaines, de ces désirs humains que j'ai évoqués tout à l'heure. Besoin matériel, besoin de protection et soif de pouvoir. Vérifions en détail ces trois tentations. Après 40 jours de jeûne, Jésus eut faim. Le tentateur va introduire un doute. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux changer à cause de la puissance que tu as, ces pierres en pain, afin de vivre bien. Jésus rétorque, il y a d'autres nourritures. La nourriture essentielle, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans une nourriture spirituelle, non plus matérielle. Satan persiste, mais le rusé, il prend le même système que Jésus, il va recourir à l'Écriture. Dieu a dit qu'il était capable de te protéger afin d'éviter toute chute. Alors, il le place sur le temple. C'est symbolique. Désert, temple, haute montagne, le Sinaï, sont les lieux de rencontre avec Dieu. Jette-toi, il se produira un miracle si Dieu te protège. Jésus, se basant toujours sur la parole de Dieu, lui dit, je ne tenterai pas, je ne défierai pas mon Père pour des bagatelles, pour réussir un projet humain. Je refuse le spectacle, la renommée. Mais le démon ne se décourage pas. Il est même audacieux. Il ne fait même plus de référence à Fils de Dieu. Il se présente comme le maître du monde. Il prend la place de Dieu. Je suis le maître du monde. Il suffit que tu t'inclines devant moi et tu auras toute la gloire du monde. Si le démon est audacieux, Jésus est catégorique. Arrière, Satan. Tes pensées ne sont pas les miennes. Il n'y a qu'un seul maître, Dieu, à qui je dois obéir d'une manière amoureuse. Et à lui seul, je peux rendre un culte de service. Au service de Dieu je suis, pour être au service des hommes. Voilà les contenus, les défis que le démon avait lancés à Jésus. Et dans sa réponse, Jésus formule vraiment une profession de foi. Je suis le fils du maître du monde, qui est Dieu. Lui seul est maître. Lui seul est digne d'adoration et de respect. Oui, le débat est clos. Le démon le quitte, apparemment. Car ce moment symbolique du désert va se répéter à longueur de vie des jours de la vie publique de Jésus. Le démon apparaîtra dans les pièges tendus par les pharisiens, par les interprétations fausses des scribes sur l'enseignement de Jésus. Il connaîtra aussi les faux témoignages de la passion. Oui, le baptême ne dispense pas des épreuves. Il en va pour cela pour Jésus comme pour nous. Le carême, c'est renouveler, reprendre conscience de notre dignité de fils de Dieu par le baptême. C'est le temps aussi de se rajuster, de faire le point sur nos relations avec Dieu, relations filiales, et nos relations fraternelles avec les autres. Je terminerai simplement, j'avais dit, c'était un deuxième temps, comment vivre le carême à cette lecture de texte. Je reprendrai simplement quelques conclusions qui vaudront sens d'interpellation pour chacun d'entre nous et nous tous ensemble. Donc il n'y aura pas de questions précises, c'est à chacun de nous de se mettre en face de ces découvertes. Jésus refuse de se servir de Dieu pour échapper à sa condition humaine. Jésus ne compte pas sur Dieu pour subvenir à ses besoins matériels. Jésus ne recherche pas la renommée. Il préfère plutôt la modestie et l'humilité. Le Dieu de Jésus n'attend que adoration, obéissance, confiance en sa parole. Nous l'avons chanté. Ta parole est vérité et ta loi délivrance. Et enfin, les deux armes que Jésus nous propose devant tant d'épreuves, c'est la parole de Dieu et la lumière de l'Esprit qui doivent guider nos attitudes de carême. Je me permettrai une petite remarque à propos de la parole de Dieu. Nous pourrons prendre la résolution de fréquenter, de lire plus peut-être la parole de Dieu, ou bien d'appartenir à des groupes de lecture. Mais je vous mets en garde. Il ne s'agit pas de groupe de lecture, ni de lire la parole. Il s'agit de se mettre en face d'elle. De l'écouter attentivement, demander à l'Esprit de nous éclairer afin d'en découvrir les vraies interpellations et non pas une meilleure connaissance de la parole, mais d'un meilleur contact avec celui qui est parole de Dieu.